BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
Au sommaire, la meilleure agence de Paris se réorganise totalement. Buzzman commence sa saison 2. Et pour en parler, j'accueille dans un instant son tout nouveau PDG, Julien Levilain. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdo.com de la semaine. Et puis notre focus du jour, CNews se positionne officiellement en soutien aux agriculteurs. Est-ce une bonne stratégie de communication pour une chaîne d'information? C'est notre décryptage aujourd'hui. Mais d'abord, j'accueille mon invité, c'est le nouveau PDG de Buzzman. Bonjour Julien Levilain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Hebdo.com aujourd'hui. Alors, vous réorganisez totalement la gouvernance chez Buzzman. Vous êtes désormais PDG. Georges Mohamed Chérif devient président du conseil d'administration et directeur de la création. Vous dites que c'est la saison 2 de Buzzman qui commence. Pourquoi tout réorganiser alors que tout allait bien?
Alors déjà, on aime bien prendre les contre-pieds et on se dit qu'en fait, on prend des décisions plus intelligentes quand tout va bien que quand tout va mal. Donc on se dit, en fait, c'est maintenant qu'il faut profiter du fait de la dynamique super positive de l'agence pour prendre des bonnes décisions. Y a des gens à l'agence qui sont là depuis un moment et donc on avait envie de valoriser, donner plus de responsabilités. Donc oui, c'est une réorganisation du management de l'agence. En revanche, c'est avec les mêmes personnes qu'avant, mais dans des rôles différents où ils ont plus de responsabilités, plus de visibilité. Donc c'est quand même relativement la suite logique de la saison 1. C'est pour ça qu'on l'appelle saison 2 et que c'est pas juste une nouvelle série. Mais en tout cas, c'est une décision qui pour nous en fait est très naturelle. Et le timing est lié aussi à l'historique, on va dire, du rachat par Havas, mais il n'est pas précipité par autre chose.
On va revenir sur le rachat par Havas. Qu'est-ce que vous attendez de tous ces changements? C'est quoi les objectifs? Quel résultat visez-vous?
L'objectif, en réalité, c'est de continuer à être l'agence la plus créative de Paris. C'est comme ça qu'on se vit, c'est l'ambition qu'on a et c'est l'ambition qu'on a envie de garder. On n'a jamais eu pour ambition de devenir un réseau international, d'être une agence de 600, 700 personnes. Ça ne change pas. On a envie de rester l'agence qu'on est, grandir évidemment un petit peu, continuer à travailler avec des clients qui ont envie de faire des choses différentes, de faire de la bonne création. Et en fait, pour entretenir ça, il y a besoin d'entretenir une dynamique, d'entretenir une énergie. Donc, à la fin, on prend ces décisions pour continuer à être l'agence qu'on est depuis 5 ou 10 ans et continuer à être pour les 5 ou 10 prochaines années.
Donc, vous voulez rester à l'échelle nationale. Vous souhaitez privilégier l'interne pour garder cet ADN plutôt que de recruter des profils externes aussi, ou alors recruter et former des jeunes talents. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez intérêt à recruter aujourd'hui, en 2024, des profils, des jeunes talents, profils IA compatibles?
Alors, de toute façon, ça, je pense que c'est une obligation absolue. Après, on est aussi quelque part un centre de formation, pour faire une métaphore footballistique. Donc, on a surtout envie de recruter des gens qui ont la tête bien faite, qui ont de l'énergie, qui sont capables de penser différemment, de manière non formatée. Et après, ils auront à leur disposition tous les outils dont ils ont besoin pour faire vivre leurs idées. L'IA en fait partie. Évidemment qu'on est obligé de regarder cette techno, d'avoir des gens qui se forment dessus, mais c'est pas aujourd'hui notre focus numéro un. On reste une industrie dont on pense que la valeur est dans les gens et dans les talents qui la font. En revanche, on pense qu'on peut facilement former ces gens. Donc, ce qui est sûr, que quelqu'un d'aujourd'hui, un jeune créatif ou un jeune commercial qui nous dit « moi, l'IA, j'y crois pas du tout, ça m'intéresse pas », ça va être problématique. En revanche, quelqu'un qui dit « ça m'intéresse, mais je ne sais pas en faire », ce ne sera pas un obstacle.
Et alors, comment éviter justement que cette intelligence artificielle vienne écrémer vos métiers? Est-ce que ce n'est pas une crainte? Comment ne pas se faire dépasser?
Je pense que ce n'est pas une crainte pour une agence comme Buzzman.
Pourquoi ce serait une crainte pour une autre agence?
Bon, je n'ai pas d'agence à citer, mais je pense que notre valeur est vraiment dans la création, dans la capacité à trouver des idées. Et jusqu'à preuve du contraire, l'IA se nourrit plutôt des choses qui ont déjà été faites que dans sa capacité à vraiment créer de la nouveauté et de la différence. Nous, c'est ce qu'on doit faire. Donc, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, l'IA soit vraiment une concurrence pour les annonceurs et les agences qui ont envie de vraiment générer des nouvelles idées. En revanche, pour nous, elle n'est pas un concurrent. elle est aussi une aide. C'est-à-dire que ça nous fait aussi passer moins de temps sur les choses qui ont moins de valeur pour se concentrer vraiment sur ce pour quoi on doit être payé.
Tout à l'heure, juste avant l'émission en off, vous me disiez justement que ça peut aider notamment sur le ciblage publicitaire, sur la pub vidéo personnalisée qui augmente de plus en plus. On voit même les grands groupes de médias, TF1 par exemple, qui souhaitent se positionner et augmenter cette part de marché-là aussi sur la pub vidéo digitale. En quoi cette intelligence artificielle peut vous aider dans la création plus personnalisée?
C'est-à-dire, je pense qu'elle offre juste des possibilités d'adaptation ou de personnalisation de la création beaucoup plus importante que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait des bannières, il y a déjà plein de manières de personnaliser des messages, mais c'est relativement simple. On peut changer des montants de promotion, on peut changer des petites choses, mais globalement, c'est des canevas assez fermés.
Ça, ce sont des technos qui existent déjà.
Ça, c'est des technos qui sont partout, hein, ouais. Sur Internet. Aujourd'hui, l'IA, elle va permettre d'aller vachement plus loin dans les modifications qu'on est capable ou les adaptations qu'on est capable d'apporter au contenu original. Donc de ce point de vue-là, elle va aider. Après, pareil, ça ne sera pas de la génération de création ad hoc, mais ça permettra juste sans doute d'adapter un peu plus fondamentalement des créations que ce qu'on peut faire aujourd'hui, de manière mécanique.
Ce qui est intéressant aussi, vous me disiez que ça sera plus cher parce qu'il y aura plus de créations à fournir. Une campagne de pub pour tout le monde, ça reste la même campagne de pub. En revanche, une campagne de pub personnalisée, bah, ça part d'une idée originale et ensuite, il faut l'adapter à chacun. Et c'est là où l'IA peut intervenir.
Exactement. Alors avec l'IA, c'est sans doute une manière d'industrialiser, on va dire, cette démonstration. Donc avec l'IA, ce ne sera pas nécessairement plus cher, mais en revanche, le niveau d'adaptation sera limité à ce que la technologie propose. L'intérêt véritable du ciblage, c'est quand même d'être capable de proposer des choses différentes à des gens dont on pense que les centres d'intérêt ou les leviers psychologiques sont différents. Et bon, si on veut faire ça, ça veut dire que, par exemple, le film que je montre aux gens qui regardent telle série ne doit pas être le même que celui que je montre à des gens qui regardent une série qui n'a rien à voir. Bah ça veut juste dire que je dois produire deux campagnes. Donc soit je dois produire deux campagnes vraiment différentes parce que je crois vraiment en le besoin d'adéquation du contenu à la cible et au contenu, soit je pense que je peux faire des petites adaptations à la marge et ça marchera. Et bien, pour les petites adaptations à la marge, l'IA fera très bien le boulot. Si je dois vraiment générer une idée différente et spécifique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle soit capable de le faire. Et donc pour ça, ce sera plus cher pour des annonceurs.
Et donc, vous, ça vous demandera aussi plus de main-d'œuvre. Donc, bien c'est sûr. Aussi peut-être un moyen pour vous de vous agrandir. Ça vous inspire, cette pub personnalisée ou pas, chez Buzzman?
Je dis, l'objectif de Buzzman n'est pas de grandir pour grandir. Donc, moi, ça m'intéresse si ça permet de développer des idées, de créer des choses nouvelles. Si c'est pour juste produire plus de contenu, c'est pas l'objectif qu'on se donne à Buzzman. En disant, notre boulot de chez Buzzman, c'est pas de faire des pubs, c'est pas de faire des films, c'est de faire des bons films. La dimension quantitative n'est pas un objectif en soi, non.
En 2019, donc il y a 5 ans, Havas avait racheté 51% des parts et là, Havas récupère 100% des parts. Pourquoi ?
Alors, parce que c'était le programme dès le début. En fait, c'est juste le processus d'achat qui était allongé sur 5 années. C'est assez fréquent, en fait, hein, c'est pour l'intéressement des managers. Donc, on est arrivé au bout des 5 ans et au bout des 5 ans, il a toujours été prévu qu'ils aient 100% de l'agence.
Et la collaboration avec Havas se passe bien? Havas qui appartient au groupe Bolloré, vous partagez les mêmes valeurs que le groupe Bolloré, tout va bien avec Havas?
Avec Havas, écoute, la collaboration avec Havas se passe très bien parce qu'ils nous laissent très libres et on ne nous impose aucune valeur.
Quand on voit justement que l'intelligence artificielle s'impose partout, que c'est incontournable quel que soit le secteur en 2024, est-ce que ça ne va être que ça le chantier de cette année ou est-ce qu'il y en a d'autres? Si on s'élargit et qu'on parle du marché un peu plus global, selon vous, c'est quoi qu'est-ce qui nous attend en 2024 dans la création?
Alors j'espère vraiment pas que ça va être le seul sujet. Je comprends très bien que d'un point de vue à la fois sociétal et de business, etc., c'est un sujet fondamental. Je pense que c'est pas du tout le sujet. Et moi, je pense que ce qui nous attend, je ne sais pas ce qui va nous attendre, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas sûr que le sujet soit de la nouveauté ou de la techno, etc. Je pense que le vrai sujet, c'est d'augmenter la qualité de ce qui est fait sur le marché publicitaire en France. De manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très moyennes, pour plein de raisons, et que je pense que c'est dans l'intérêt de personne C'est pas dans l'intérêt des marques, c'est pas dans l'intérêt des agences dont la valeur est dépréciée. C'est évidemment pas dans l'intérêt des consommateurs qui, plus on va leur proposer les choses moyennes, plus ils vont se désintéresser. Donc moins la publicité sera efficace. Donc voilà, de manière générale, je pense que le sujet, qui est le sujet de la publicité depuis déjà de longues années, qui continue de l'être avant toute chose, c'est la capacité qu'on a à proposer des contenus et des spectacles qui ne rebutent pas les gens, mais au contraire, qui les fassent réagir positivement. Et ça, je pense que l'essence même du métier, elle change pas. Et on peut parler d'IA, etc. Oui, c'est des outils, etc. Mais ça doit pas cacher ce qu'est le fond de ce qu'on doit faire. Et l'IA va pas révolutionner ça.
L'autre grand chantier quand même en 2024, ce sont tous les événements sportifs à venir, les Jeux Olympiques notamment. Comment est-ce que vous abordez tout ça? Est-ce que vous êtes déjà en train de bosser dessus?
Alors, ça dépend des annonceurs avec lesquels on travaille. Il y a des annonceurs qui ont des grosses ambitions sur les JO parce qu'ils sont partenaires. Nous, à l'agence, on n'a pas de clients qui sont partenaires des JO. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment le sujet central. Maintenant, je m'attends évidemment à partir du mois de mai à avoir tombé beaucoup de briefs de clients sur comment est-ce qu'on pourrait hacker les Olympiques, comment est-ce qu'on pourrait faire des choses autour de ça. Donc c'est sûr qu'on va s'y atteler. Pour l'instant, c'est pas...
C'est quand même des grands moments dans la création.
Ah, c'est des grands moments dans la création. Et en même temps, c'est des moments qui sont extrêmement contraints juridiquement, parce qu'évidemment, vous avez le droit de rien utiliser de l'image des Olympiques. Et par ailleurs, c'est toujours le même sujet. C'est quel moment ça sert la marque. C'est-à-dire que c'est pas parce que des gens parlent de quelque chose que votre marque a quelque chose à y faire. Donc le sujet, c'est toujours pareil. C'est de trouver un lien entre ces événements sportifs, en l'occurrence les JO, et les marques pour lesquelles on travaille. Et parce que sinon, c'est totalement gratuit. Et du coup, est-ce que ça sert la marque? On peut se poser la question.
Dans la deuxième partie de l'émission, tout à l'heure, on va parler de la chaîne CNews qui appartient au même groupe, au groupe Bolloré, qui a retourné son logo en début de semaine en soutien aux agriculteurs. Est-ce que c'est un coup de com' qui vous parle? Est-ce que ça aurait pu être un coup de com' Buzzman compatible?
Non, ça aurait pas pu être un coup de com' Buzzman compatible. Je viens de le dire avant, le but c'est un coup de com', mais il fonctionne bien s'il a un lien naturel avec la marque. Moi, je ne suis pas un spécialiste de CNews. Je ne suis pas sûr de voir le lien entre CNews et les agriculteurs. Mais s'il existe et qu'il est pertinent, c'est sans doute une bonne idée.
On en parle tout de suite. C'est dans notre focus dans un instant. Merci beaucoup, Julien Levillain, d'avoir été avec nous. Vous êtes PDG de Buzzman. Et puis, on vous souhaite une très, très belle saison 2. Tout de suite, c'est les news par Simon Tenenbaum.
Netflix surfe sur le succès de ses offres avec publicité. Le géant de la vidéo à la demande a publié cette semaine des résultats annuels très solides. 13 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre et désormais 23 millions d'utilisateurs mensuels à ses offres avec pub. Netflix vise encore 13% de croissance ce trimestre. La pub qui pousse Netflix à explorer davantage la programmation en direct avec cet investissement record dans les droits sportifs, 5 milliards de dollars pour diffuser pendant 10 ans une célèbre émission américaine de catch. À propos de vidéos à la demande par abonnement, en France, le marché a dépassé en 2023 la barre des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon les données publiées cette semaine par le CNC. Le marché qui a réaccéléré en fin d'année. Netflix frôle maintenant la barre des 12 millions d'abonnés contre 8 millions pour Amazon Prime et environ 5 millions pour Disney+. La grosse annonce de la semaine du côté de Publicis, investissement de 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle évidemment. Le groupe veut mettre l'IA au cœur de son business. L'objectif principal est d'optimiser l'exploitation des données dont dispose Publicis. Havas, de son côté, se retrouve attaqué par des défenseurs du climat. Le collectif Clean Creative critique le contrat noué avec le pétrolier Shell l'an dernier pour son budget média. Les activistes font pression pour que l'agence ne soit plus labellisée Bicorp. Et le risque de perdre ce sésame est réel puisque selon Adweek, une enquête a été ouverte à la suite de ces pressions par le Bilab qui octroie ce fameux label ESG. On termine avec ce que les professionnels du secteur qualifient de blitz marketing. L'offensive publicitaire du chinois Temu, spécialiste du e-commerce low cost, ses dépenses publicitaires ont décuplé en 2023 avec deux tiers des investissements sur les réseaux sociaux. Temu aurait dépensé plus $1,2 milliard en pub chez Meta l'an dernier. Une stratégie très agressive qui n'omet pas la télévision. Temu sera un des annonceurs du Super Bowl en février pour la deuxième année consécutive.
Hebdo.com sur BFM Business.
L'opération On marche sur la tête s'est imposée jusque dans le paysage audiovisuel français cette semaine. C'est une initiative lancée par les agriculteurs en novembre 2023. Elle consistait à retourner les panneaux des villes pour dénoncer les règles imposées à la profession. Et la chaîne CNews a décidé de prendre parti officiellement pour le mouvement officiellement en retournant son logo lundi dernier dans la journée. Comme d'habitude, on vous a demandé votre avis sur le sujet. Est-ce que vous trouvez que c'est un coup de communication réussi de la part de CNews? Et les réponses sont plus ou moins mitigées. C'est oui à 54%. Pour en parler, j'accueille mes experts du jour. Valerand Moulet-Berthaud, salut.
Salut Rebecca.
Merci d'être avec nous. Tu es fondateur du groupe de médias Le Crayon. Et Valentin Richardot, bonjour.
Salut.
Tu es fondateur de J'ai un pote dans la com. Merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui. Donc, c'est une réponse mitigée. Oui à 54%. Pourquoi, à votre avis?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y a déjà évidemment un effet de chaîne. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui aiment beaucoup ou détestent CNews. Donc forcément, ça polarise à ce niveau-là. Et je pense que des gens ne seront pas objectifs dans leurs réponses, quoi que la situation soit. Moi, à titre personnel, je pense que c'est un coup de com' réussi. Parce que je trouve que c'est une manière pour une chaîne de télévision de prendre des pratiques de la presse écrite. Donc on peut notamment penser à Libération, au Monde ou au Figaro, qui sont un peu les trois gros médias de presse écrite, qui régulièrement prennent position éditorialement sur des sujets. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rare sur les chaînes de télévision et même sur certains médias digitaux, on va dire nationaux. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir ça évoluer sur une chaîne. Et en plus, je pense que c'est une manière aussi de flatter leurs audiences, parce que leurs audiences ont envie, en tout cas, d'avoir ce sentiment de soutien avec les régions, avec une campagne, on va dire, un peu oubliée du parisianisme et cette critique régulière que fait CNews dessus. Donc je pense que c'est aligné avec leur audience et les valeurs qu'ils ne veulent pas prodiguer. Après, est-ce qu'on est aligné avec ces valeurs ou cette audience? Ça, c'est à chacun de décider.
Mais justement, quand on fait ce constat-là, de soutenir de cette façon-là une cause, c'est de fait en délaisser une autre, non?
Pour une marque comme cette chaîne-là, parce qu'une chaîne est une marque comme un média classique, il n'y a rien de pire que d'être trop lisse. Le but, c'est pas d'être clivant à tout prix, mais si on laisse pas de marque, si on n'apporte pas son image et qu'on veut pas proposer quelque chose, on sert plus à rien et du coup, on est moins écouté, moins consommé, moins lu et du coup, là, moins regardé. Donc, c'est peut-être prendre parti sur une cause et en délaisser d'autres, mais c'est inhérent à chaque choix qu'on fait. Donc la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on va répondre aux auditeurs qui vont dire mais les autres causes, les autres luttes, est-ce qu'on les prend en compte ou pas? Choisir celle-ci, c'est laisser tomber les autres? Pas spécialement. Moi, je suis pas pro ou contre. Simplement un choix qui a été fait. Donc en termes de coup de com, je pense que c'est hyper malin. Maintenant, ils vont le justifier. Ils l'ont déjà fait pour eux. Comme tu l'as dit, il y a un gros public cible auprès de ce profil-là. Ils ont choisi leur lutte et c'est à l'instar d'autres chaînes ou d'autres médias qui s'engagent sur d'autres sujets, d'écologie ou autre, c'est en lien avec ce qu'ils ont l'habitude de faire et leur ligne édito.
Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur les annonceurs? Là, pour le coup, c'est quand même, ça nous intéresse.
C'est une grosse question et c'est effectivement la question qu'il faut se poser. Est-ce que les annonceurs vont continuer à nous suivre? Est-ce qu'ils vont continuer à faire des choses sur cette chaîne-là? C'est assez inédit en France, comme tu l'as dit, ce genre de pratique. Ça l'est un peu moins aux US, avec des chaînes télé qui sont beaucoup plus, il y en a beaucoup plus. C'est extrêmement pas régulier, mais en tout cas, il y a beaucoup de chaînes qui s'engagent sur un certain nombre de sujets. Si on va plus largement au niveau des marques, il y a beaucoup de marques qui s'engagent aussi sur des sujets même politiques. Et qu'on soit d'accord ou pas, ça crée un peu moins de débats. Là, vu que c'est une chaîne et qu'il y a un enjeu d'information, on se pose la question de pourquoi on l'a fait, est-ce que ça a du sens? L'annonceur qui croit en cette chaîne-là, je pense pas qu'il va se demander est-ce que je reste ou pas. Alors, ils vont se poser la question, mais ça va être en congruence avec leurs attentes, avec leurs habitudes. Je pense qu'ils vont continuer à annoncer.
C'est une théorie qu'on a développée en interne dans une de nos agences qu'on a appelée le faux impopulaire. Le faux impopulaire, c'est l'idée qu'on va avoir un avis très tranché et très radical sur un sujet pour montrer que nous, on a le courage de se positionner. Alors même qu'on est en train de faire quelque chose avec lequel on le sait que tous nos partenaires et les acteurs qui travaillent avec nous sont totalement d'accord. Donc c'est quelque chose de très réussi parce qu'en fait c'est de la com gratuite parce qu'on sait que les gens vont en parler parce que c'est un petit peu choquant. Sauf qu'en fait on sait que tout notre écosystème nous suit déjà dans cette idée-là. Nous on appelait ça le faux impopulaire parce que c'est l'idée de se prendre pour un héros ou pour un dénonciateur sur quelque chose sur lequel globalement les gens qui regardent CNews ou les annonceurs de CNews sont généralement assez alignés avec ces revendications, on va dire, campagne profonde sans aucun jugement de valeur de mon côté.
Mais ça vient aussi, enfin, un popular opinion, c'est quelque chose qui est très US aussi, qui est arrivé en France il n'y a pas longtemps. C'est une trend social media de je veux faire péter mon contenu, je veux que ma vidéo soit vue x10, x100, en trouvant une opinion, un avis un peu défavorable à la majorité, en tout cas à ce qu'on pourrait penser de manière normée, pour dire, moi je pense ça. Ça a été beaucoup fait sur plein de sujets, des sujets sportifs, les paris, voilà, tel joueur de rugby ou tel joueur de foot, vous l'aimez pas, moi je pense qu'il est quand même bon là-dessus. Donc le unpopular opinion, il est extrêmement puissant en termes de perf, parce qu'on dit, ah, eux, ils ont le courage de dire ce qu'on pense, ou ils ont le courage de dire un peu l'inverse de tout le monde.
Enfin, les vrais sujets.
Ouais, et au final, bah, t'as l'impression, et c'est peut-être pas forcément vrai, mais t'as l'impression que, ah, bah, ils disent la vérité. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est un autre sujet, mais tu as là, on crée cette mécanique-là, comme tu l'as expliqué, crée le sentiment de dire, OK, il s'intéresse au vrai sujet.
Comme il ose, il ne peut pas mentir.
Voilà, exactement. Il fait le pas, il prend position. Moi, j'ai envie de lui faire confiance.
Donc, c'est une stratégie pour faire du buzz.
C'est complètement ça. Et je pense que la question à se poser, elle est plutôt du côté de l'image à très long terme, de est-ce que ça ne va pas nuire à une forme d'objectivité ou de qualité de l'information? Parce que ça, pour le coup, sur le très long terme, ça peut se payer cher, parce que c'est des choses sur lesquelles les concurrents ou les personnes qui n'aimeront pas la chaîne voudront attaquer.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut toujours qualifier de CNews une chaîne d'information quand on voit ce coup de com' là?
C'est une vraie info. Enfin, c'est une vraie info. C'est une vraie question. Et je pense que si on posait la question à beaucoup de Français, ils ne font pas de distinction entre toutes les chaînes d'infos en continu. Je pense qu'ils les jettent tous à la poubelle pour beaucoup de Français qui en ont marre de cette méthode, on va dire, de journalisme. Après, je pense que c'est toujours la question de où dans le spectre on se situe. Je pense qu'il y a des gens qui considèrent CNews comme une chaîne d'information fiable, et tout comme je pense qu'il y a des gens pour qui c'est le plus bas de l'information. Je pense que ça, c'est vraiment une question de prisme. En revanche, et c'est là où je suis très d'accord avec toi et avec ta question, que je trouve très pertinente, c'est va-t-on avoir encore des espaces où tout le monde trouvera accès de l'information? Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux, et qui est même très dangereux au-delà même de la communication.
Tu parles de neutralité de l'information ?
Au-delà de la neutralité, je parle du fait qu'on reconnaisse tous que certains espaces sont des informations officielles, vérifiées et crédibles. Et que plus on avance, plus on voit bien qu'il y a une parcellisation des audiences autour de ça.
Et encore plus dans le groupe politique.
Et je le dis parce que nous, notre média de débat Le Crayon, c'est un peu mon autopromo, mais c'est ce que depuis le début on essaie de construire. C'est un endroit où tout le monde, on peut adorer ou ne pas aimer, mais on sait qu'il y a de la transparence et il y a le plus de travail pour de l'objectivité. Mais on l'a fait parce qu'on a bien vu, on a bien senti que les gens avaient besoin de nouvelles marques pour s'identifier à ça. Mais simplement parce que la société se parcellise. Ce n'est pas que de la faute des médias. Ça l'est aussi, mais ce n'est pas que de la faute des médias.
Si on généralise un peu plus pour terminer, est-ce que c'est un bon pari de communication en tant que chaîne d'info de prendre parti?
Moi, je pense que on l'a déjà dit, mais c'est une mécanique de communication qui fonctionne. La preuve, on en parle aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de mettre en avant ce qu'ils pensent. On est beaucoup plus proche d'une chaîne de débat que d'une chaîne d'info classique. Donc, ils le revendiquent. Et quand on voit sur les plateaux qu'il y a des éditorialistes, mais ils ne sont pas forcément experts d'un sujet, ils donnent leur avis, bah, ça indique aussi le niveau d'exigence qu'on veut avoir. Donner ton avis, c'est très bien. Mais est-ce qu'en termes d'expertise, tu as les moyens de le faire? C'est autre chose. Donc, si on prend
légitimité des incarnants.
Si on prend un regard macro, je pense que c'est une campagne, c'est une action de communication qui a fait ses preuves, qui marche bien, et on en parle aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'audience va être réceptive? On va regarder, ça a été fait une fois, ça va ouvrir la porte peut-être à d'autres choses aussi. Hein.
Moi, je pense que c'est une stratégie de challenger. Si on peut prendre un peu aujourd'hui les audiences, on va dire qu'il y a BFM TV en leader et il y a CNews en challenger. Et c'est un peu ce qu'on pourrait retrouver entre McDo et Burger King, entre Coca et Pepsi. Et je pense que c'est toujours le rôle de Pepsi, de Burger King et de CNews d'aller tenter d'être le plus brillant et le plus, on va dire, sulfureux possible pour aller challenger la position d'un favori, d'un leader qui, lui, au contraire, doit, comme il touche tout le monde et à sa place de numéro 1, faire beaucoup plus attention et être beaucoup plus prudent parce qu'il a, selon moi, plus de choses à perdre. Donc je pense qu'on peut aussi le voir dans cet angle-là.
Est-ce que tout ça quand même, parce que là tu parles d'un point de vue de business, mais est-ce que si on revient à notre sujet du jour, c'est-à-dire la chaîne d'information, ça révèle quand même qu'aujourd'hui il y a un conflit entre les médias et les positions politiques de leurs incarnants?
Il y a un conflit. Enfin, si on regarde d'autres chaînes ou autres, il y a eu quelques semaines, quelques jours, on n'a quasiment pas entendu parler de ce sujet-là des agriculteurs, donc ça... Il y a des gens qui choisissent des sujets, etc. Donc ça prouve leur engagement sur un sujet, ça prouve qu'ils n'ont pas envie de faire comme les autres, ils n'ont pas envie de faire comme les autres chaînes, ils ont envie de marquer leur différence. Et ça passe par le choix des éditos et par ce genre d'action. Donc oui, ils sont clairement, enfin, c'est pas des guerres ouvertes, même si on sait que c'est la course à l'audience, et ça peut accélérer une audience ce genre d'OP.
Donc c'est une bonne stratégie de communication.
C'est plutôt une bonne stratégie de communication. Il y a aujourd'hui, on va dire, 5-6 gros acteurs groupés dans les médias, dont dedans le service public. Et en fait, aujourd'hui, ces 5-6 acteurs groupés n'ont pas les mêmes idéologies, n'ont pas les mêmes opinions à propager via leurs médias. Et je pense que pour le coup, ces stratégies de groupe fonctionnent vraiment en tant que groupe. Et si on regarde les chaînes d'un groupe, on remarque qu'elles sont jamais très très éloignées les unes des autres d'un point de vue des idéologies ou d'un point de vue des informations qu'on veut montrer. Donc moi, je pense que c'est aussi, on va dire, l'apanage des groupes médias et que là, pour le coup, il faut carrément, à mon avis, interroger le logiciel des groupes et pas seulement des chaînes ou des canaux de ces groupes-là.
Bon, bah, affaire à suivre, on verra si CNews se repositionne dans un autre conflit dans les mois à venir et on décryptera ça ensemble. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout, en replay, télé, podcast. Et pour finir, comme d'habitude, notre campagne chouchou qu'on a sélectionnée cette semaine avec CB News, c'est le nouveau film de Fruits. C'est vrai que parfois, il arrive que certains oublient leurs effets personnels chez une rencontre d'un soir et on n'a pas forcément envie d'aller de retourner les chercher, que ce soit nos AirPods, une boucle d'oreille ou une écharpe à laquelle on tient quand c'est chez une conquête d'un soir. Et c'est l'application de rencontre du groupe Bumble a donc décidé de voler au secours de ses utilisateurs dans un film signé Frénésie, réalisé par Flavie Gonin et Louis Dauge. Très bon week-end sur BFM Business.
Bonjour à tous.
Salut.
Ça vous est déjà arrivé? Vous rencontrez quelqu'un sur Fruit et vous passez une nuit de rêve ensemble.
Quel fruit?
Pêche.
Sympa.
Le lendemain, vous réalisez que vous avez oublié vos écouteurs chez votre date et vous habitez super loin.
Pas sympa du tout.
Heureusement avec...
les coursiers de l'or.
Que vous ayez oublié une bague, une montre ou une botte de cow-boy,
yeah,
il vous suffit d'aller sur Fruit. L'app vous offre les services d'un coursier.
Enfin une application de rencontre qui me fait gagner du temps. Merci, Fruits.
Fruits, choisis ton fruit et gagne du temps.